La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour nous.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Oui, Picasso, encore me direz-vous, et un livre peut-être le millième sur le sujet, oui, mais quand même. Mais cette fois-ci, un angle inédit et passionnant. Y surgit Picasso, non seulement le génie fulgurant, mais cet émigré espagnol, immédiatement suspect dès son arrivée à Paris en 1901, alors que la France s'effraie des anarchistes et des étrangers, et qu'il fréquente justement les barlouches, les bordels, les apaches, les autres espagnols de Paris. Picasso, le frénétique amant de la vie moderne, comme le décrit le critique d'art Cocchio dès 1901, mais aussi, selon la police, le métèque au regard sombre, au langage incompréhensible, sûrement un étranger dangereux qui trame de mauvais coups, la preuve. Il peint des saltimbanques, des marginaux, rien qui inspire confiance. Puis Picasso le cubiste, cet art qui évoque l'Allemagne, qui défie le bon goût français, qui est défendu par Canveller ou Karl Einstein, n'est-il pas intoxiqué par les boches? Picasso, qui sort de la misère absolue des premiers voyages parisiens, devient la figure majeure que le monde, les Américains, les Russes acquièrent à prix d'or. Puis Picasso, l'ami des surréalistes, qui s'acoquine avec Stoukine, adhère au parti communiste. Tout cela est louche encore et encore. Le grand pays, dont les grands maîtres du XXe siècle s'appellent parmi d'autres Miro, Brancusi, Dali, Bronner, Wolfs, Max Ernst, ou encore Apollinaire ou Gerasim Luka, cette France, enrichie de ses talents venus d'ailleurs, refusera aux grands monstres de la peinture du XXe siècle la nationalité française. Ce livre se lit comme un roman, s'y déchaînent les paradoxes de la capitale des arts, à la fois laboratoire de la modernité et refusant de célébrer les immenses talents qui s'y trouvent. Une galerie de portraits de ceux qui entourent Picasso, les génies, les poètes, visionnaires, les regardeurs les plus aigus et les flics, les balances, les traîtres, les antisémites, les réacs, et l'intelligence de Picasso qui se ferait un chemin ardu parmi ses contradictions. Pour parler de cet envers du décor, son auteur qui a mené une enquête éblouissante sur les coulisses de la gloire de Picasso, une enquête qui résonne évidemment avec notre époque d'aujourd'hui, ses peurs et ses stigmatisations. Annie Cohen-Solal, un étranger nommé Picasso qui vient de paraître chez Fayard et qui sera en octobre prochain une exposition au Musée de l'Émigration. Annie Cohen-Solal, historienne, toujours intéressée par les concepts et les questions du cosmopolitisme. Chère Annie, on connaît vos livres sur Castelli, Roscoe, Un jour ils auront des peintres, consacrés à la peinture américaine. Vous avez écrit ce livre extraordinaire, une vision, à mon avis, tout à fait nouvelle, à laquelle vous vous êtes consacré pendant près de 5 ans. Vous m'en parliez avec passion il y a 4 ans, lorsque nous étions ensemble au Palais de Tokyo. Je n'avais pas bien compris, je n'avais pas bien apprécié l'immensité et l'ambition du livre. Je me réjouis que vous soyez avec nous pour en parler.
Bonjour Jean, oui, c'est vrai, je m'en souviens de ce dîner.
Hein, voilà.
Vous étiez complètement à côté.
J'étais complètement copié, oui. Vous me disiez, mais Picasso n'a pas été aimé par les Français, il n'a pas été reconnu,
il était invisible.
Voilà, étrange. Alors, quelle est l'ambition du livre? Quel était le projet, en fait?
Je vais vous dire, je suis hypersensible au rejet de ces gens qui adorent la France, qui y viennent en accourant. Et qui prennent des coups, quoi. C'est quelque chose peut-être qui a à voir avec mon histoire. Je suis aussi hypersensible à l'hypocrisie, à la mauvaise foi. J'ai commencé mon enquête en allant à la préfecture de police au Pré Saint-Gervais. C'est un lieu très bizarre.
On y rencontre peu d'historiens d'art.
Oui, il n'y en a pas. J'en ai pas vu. Et on est très peu dans la salle. C'est une salle qui est un peu clinique, quoi. Mais là, c'est là que j'ai découvert, par exemple, les indicateurs de police, qui s'appellent fourreur, bornibus, giroflée et je ne sais plus quoi.
Et finaux. Mais
voilà.
C'est hallucinant. On est un petit peu dans, je ne sais pas, les pieds nickelés.
Voilà. Alors, on est dans des mondes complètement... Si vous voulez, c'est ça qui m'a intéressée dans mon travail, c'est que les mondes dans lesquels je travaillais étaient complètement étanches au départ. D'un côté, les historiens d'art qui ont des analyses formelles, et d'autre côté, les historiens
de la société,
les sociologues, etc., qui ont des approches sur le terrain avec des outils complètement différents. Et pendant mon travail, il y a eu une floraison de sublimes expositions sur Picasso, que j'ai toutes vues, qui m'ont nourri, mais qui étaient compartimentées. Décloisonnés. C'est-à-dire, il y avait Picasso Guernica, il y avait Picasso et Olga, il y avait Bleu et Rose, il y avait les tableaux magiques.
Picasso Calder, Picasso Rodin, toutes ces merveilles, en fait.
Merveilles. Ouais. Je pense que Picasso, c'est un tout. Oui. Et là, j'adore citer ce que Sartre avait écrit en ouverture de son Flaubert. On entre dans un mort comme dans un moulin. L'essentiel est de partir d'un problème. Et j'avais à ma disposition ces archives du musée Picasso que Laurent Lebon venait d'ouvrir, puisqu'il venait d'arriver à la direction du musée Picasso, ces archives qui sont considérables. Picasso ne jetait rien. Il n'a pas jeté un ticket de cirque de 1901. Rien.
J'ai vu dans votre livre toutes les cartes de visite annotées, les petits billets de l'un ou de l'autre, rien. Cette obsession, cette façon de s'assiéger soi-même de sa propre histoire, vient de quoi ?
C'est peut-être une angoisse, c'est peut-être une nécessité de se construire un réseau.
Bon, mais c'est peut-être aussi la certitude que ce sera important.
Oui. D'ailleurs, vous voyez, à partir d'un certain moment, il va noter sur chacune de ses œuvres, chacun de ses dessins, la date exacte, le jour exact et l'heure de la production. C'est faramineux. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que j'ai tenté de regarder le monde avec les yeux de Picasso. Donc il arrive pour la première fois à Paris, il n'a pas 18 ans pour l'exposition universelle.
Il va faire à peu près 3 voyages à Paris.
C'est 4 voyages.
4 voyages.
Et ça m'a intéressé.
On est en 1901, César.
En 1900, 1901, 1903, 1904. Mm-hmm. Alors vous voyez, pendant qu'au musée Picasso, il y avait Picasso et la BD par exemple, on montrait des dessins où il se représentait arrivant à Paris, mal habillé, ridicule, un peu à la Toulouse-Lautrec. Et donc ces œuvres-là étaient montrées dans une perspective formelle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que Picasso explique autre chose dans ses dessins. Il explique qu'il est dépendant. Il est dépendant des Catalans qui sont installés à Paris depuis 20 ans à Montmartre parce qu'il ne connaît rien de Paris. Il ne connaît ni la langue ni les codes. Donc, il exprime sa dépendance et surtout son malaise parce que tout étranger se retrouve dans une situation de perte de repères. Et quand on perd ses repères, on est comme dans un labyrinthe. Donc Picasso, moi ce qui m'a fasciné, c'est de relire son œuvre à l'aune des découvertes que je faisais dans les archives. Pourquoi on n'avait jamais noté que Picasso peint énormément d'aveugles au début de sa carrière ?
Oui, une obsession sur le regard.
Voilà. Et donc, vous avez vu sa lettre à Max Jacob au début, quand il n'arrive pas à rester à Paris, il ne trouve pas de lieu. Donc il rentre à Barcelone et il lui écrit dans ce mauvais français, mais qui est aussi magnifique, il y est dessiné un homme aveugle qui touche sa croche avec sa maman. C'est magnifique, c'est un effort énorme pour parvenir à exprimer, à communiquer. Et on sait qu'en 1935, Picasso deviendra poète et un très très grand poète, poète surréaliste.
Ok, il attachera beaucoup d'importance. Vous signalez qu'il note, lui, là aussi, pour chaque poème, les dates, les heures. Là encore, il n'y a pas de différence entre les genres, quoi.
Mais une des choses aussi très importantes qui m'a été donnée de noter, c'est la relation de Picasso au temps. Picasso a une relation très spéciale au temps. Il va dans les musées, il est toujours au musée du Louvre, et les musées, c'est un hors-temps. On est en dehors du temps, on est dans. En même temps, lui arrive de Barcelone, et il a été fréquenter la grande trinité des grands maîtres espagnols, mais surtout Velázquez. Et au Prado, à l'âge de 16 ans, il a fait une copie du Philippe IV de Velázquez, qui date de 4 siècles auparavant. Mais cette copie, elle est supérieure à l'original. Moi, j'ai comparé, elle est supérieure, elle est exceptionnelle. Donc Picasso, il fréquente Velázquez. Il tutoie Velázquez. Et quand il arrive à Paris, je veux dire, le roi n'est pas mon cousin. Il est très, très solide. Il sait qu'il est un génie. Et il est accueilli quand même, métèque. Il est accueilli avec des baffes, avec des situations de rejet qui sont odieuses. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire cette sociologie américaine en très fine, avec des éléments très fins, minuscules, et ce qu'on appelle le point de vue du sujet. Je me mets à sa place. Que ressentait-il? Que disait-il? Et ça, on le lit dans la correspondance.
Et auprès de qui va-t-il se faire protéger? Alors, il y a plusieurs personnages qui vont parfois le protéger, parfois pas. Au début, il y a un drôle de gars qui s'appelle Maniac.
Ah oui, Maniac, c'est un horrible catalan, justement, dans les bras duquel il tombe parce qu'il est forcé d'y aller. C'est ça, c'est un catalan qui est vaguement marchand et qui propose à Picasso, il voit arriver ce jeune génie et il lui propose une exposition chez Ambroise Vollard, mais il va
l'escroquer en fait.
Il va l'escroquer parce que j'ai découvert dans les archives de la police qu'il va dans l'appartement de Picasso, à peine Picasso parti, dans le studio, et il pique des trucs.
Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais lu et entendu. Ouais, ça n'existe pas.
Non, il faut aller chercher dans les.
Mais c'est fou parce que c'est vraiment un pauvre qui vole à un pauvre. Hein,
oui,
parce que il vole les toiles de Picasso qui valent quelques sous à l'époque.
Oui, ça vaut quand même 100 francs parce qu'il avait déjà vendu chez Bert Weil. Dès le premier séjour.
Bert Weil, qui est sa première galerie, qui est en face du Chat Noir.
Oui, c'est pas une grande marchande.
Non, elle est
pas. C'est une dame qui a des loupes en guise de lunettes et qui n'était pas du tout une grande financière.
Mais elle a eu l'œil.
Voilà,
quand même,
hein. voilà. Et à ce moment-là, Picasso fait. C'est l'époque, à 18 ans ou à 19 ans. Les jeunes peintres vont à l'école des Beaux-Arts. Picasso, lui, il avait déjà dépassé l'art académique.
Il faut dire que son père était directeur de l'école des Beaux-Arts de Barcelone, non?
C'est ça. Et donc Picasso n'a eu de cesse, et son père peignait des pigeons. Si vous allez à Malaga, dans la casa natale, vous voyez les pigeons du père de Picasso, et le petit garçon peignait les pattes des pigeons. Mais quand Picasso a eu 12 ans, et ça c'est Françoise Gillot qui me l'a raconté, le père s'est rendu compte que son fils était tellement supérieur qu'il lui a offert sa palette et qu'il a cassé ses propres pinceaux. Donc son père s'est quasiment castré pour lui quand Picasso a eu 14 ans.
Ouais.
Ce qui est assez
bouleversant.
Oui, assez bouleversant.
Alors il arrive à Paris et donc dans une pauvreté totale, hein, donc avec un grand ami, il va y avoir un drame autour de ce grand ami. Qui est-ce?
Il s'appelle Casagemas, c'est un copain qui est à la fois poète, catalan, qui parle français, donc qui cornaque Picasso.
Et un amoureux.
Et alors, bon, ils avaient des copines ils habitaient à quatre dans un atelier. Il y avait quatre filles, il y avait quatre garçons. On est très macho à l'époque. Et donc, Casagemas avait un petit problème de pénis et il n'arrivait pas à l'érection. Et donc, sa copine en a.
Je me demande comment on sait des choses aussi précises.
Ah ben, c'est clair, hein, je crois que c'est clair.
Ah oui.
Oui, je vous, après l'émission, je vous ferai un dessin. Ça vous va? Et alors, en fait, Casagemas était donc un amoureux malheureux puisqu'il était frustré et il va revenir voir sa copine et lui faire une scène dans un café, lui tirer une balle sur elle, il va la rater et se suicider. Donc là, j'ai trouvé...
C'est quand même le grand ami bouleversant de Picasso et la mort de Casagemas, ça sera plusieurs tableaux de Picasso.
Et ça m'a marqué parce que si vous voulez, la première chose que Picasso remarque à Paris, moi j'adore les premiers regards, c'est la place de la femme dans la société française. On voit des femmes dans des cafés en France, ce qu'on ne voit pas en Espagne. Et donc la première chose que Picasso dessine, c'est la femme, la parisienne, légère dans les cafés. Et vraiment, on voit bien que on est déjà dans Eros et Thanatos, on est déjà dans l'amour et la mort, on est déjà dans Les Demoiselles d'Avignon, on est déjà dans quelque chose de très,
j'allais
très
le dire, c'est,
profond.
C'est le sujet permanent.
Complètement.
Ça va être l'obsession. Et alors donc, comment se fait-il qu'on l'accuse tout de suite d'être, enfin qu'on l'accuse, que c'est ribouledingue, là, les quatre, je redis leur nom parce que c'est fou de s'appeler comme ça, c'est merveilleux, c'est romanesque, hein, Fino, Fourreur, Giroflée et Barnibus.
Bornibus.
Et Bornibus, mm-hmm. qui le suivent, qui sont les flics en fait, et qui suivent le...
Ce sont des indicateurs de police.
Ah.
Il faut savoir que pendant cette période, à partir des attentats anarchistes de la fin du 19e jusqu'à 44, la France va construire une police des étrangers absolument sublime, sophistiquée, qui sera visitée par toutes les polices du monde. Elle multipliera par 4 le budget de la police et que ces indicateurs sont extrêmement actifs dans les endroits où il y a des noyaux halogènes d'étrangers. Or, Picasso n'avait... Enfin, si vous voulez, Les Catalans l'accueillent à Paris. Il n'y a pas d'autre choix, puisqu'ils parlent français et ils l'aident. Mais en même temps, ce qui est une bénédiction devient un piège absolu, puisque les indicateurs de police étaient postés dans les cafés de Montmartre à regarder les allées et venues des Catalans. Donc Picasso, pour son deuxième voyage, vient chez Maniac, son marchand, et
qui lui a une réputation d'anarchiste et qui l'est probablement réellement.
Qui avait signé un truc, qui avait signé un papier.
Ouais.
Mais alors, le nom de Picasso, il faut voir comment ça fonctionne. Le nom de Picasso apparaît dans la presse par l'article de Cocchio que vous avez lu. Hein.
Oui.
À l'époque, il s'appelle Pablo Ruiz.
D'ailleurs,
Picasso.
Bravo à Cocchio parce que
il a tout de suite décelé
le génie.
Un amant de la frénétique de la vie moderne.
J'adore cette expression.
Et en fait, donc le commissaire Rouquier, donc on a le commissaire Rouquier voit le nom Pablo Ruiz Picasso et il repère que les indicateurs de police ont fait des papiers sur ce Pablo Ruiz Picasso. Donc il repère l'article qui est positif. Il le met à côté des ragots des indicateurs, et il fait la première note de police contre Picasso, dans laquelle il détourne de manière perverse les critiques positives de Cocchio en faisant de Picasso un anarchiste surveillé, fichier S d'aujourd'hui.
Alors c'est intéressant par le rapport, évidemment. Hein. Donc je lis ce que vous écrivez, donc ce qui est un relevé au fond de d'un rapport de police de ce qui précède. Il résulte que Picasso partage les idées de son compatriote Maniac, qui lui donne asile. En conséquence, il y a lieu de le considérer comme anarchiste. Et donc la police est à ses trousses, on pense, parce qu'il y a l'affaire Sadi Carnot qui s'est passée quelques temps avant.
Oui, c'est ça. 1894, c'est le président de la République qui a été tué par un anarchiste italien qui s'appelait San Geronimo et qui a été donc décapité. Donc il y avait toute une période assez violente de l'anarchisme dans la fin du 19e siècle, clairement. Mais si vous voulez, la population donc s'est attaquée. Aussi, il y a eu cet épisode assez horrible des mines de sel en Camargue, dans laquelle
avec les révoltes des ouvriers qui ont été
les travailleurs
massacrés.
Italiens ont été massacrés. Enfin, voilà, il y avait comme ça des espèces de petits pogroms. Mais c'est vrai que les ouvriers, la France était le premier pays importateur de main-d'œuvre étrangère dans toute l'Europe. Au gré des crises économiques, on avait besoin de main-d'œuvre. Alors, quand on avait besoin de main-d'œuvre, on faisait venir les étrangers, et quand on n'avait plus besoin d'eux, on les renvoyait. Ça s'est passé à la suite de la guerre.
On avait besoin d'étrangers, on en avait peur tout autant.
C'est exactement ça.
Voilà. Et alors donc, vont venir donc au cours de ces voyages, autour de lui, des personnages capitaux. Max Jacob, peut-être, c'est un des
c'est son premier ami français.
Oui.
Et c'est un ami marginal, c'est un homme fragile, c'est un homme qui va exprimer son homosexualité un peu plus tard, qui est un juif qui va se convertir au catholicisme, qui est un juif de Quimper, il n'y a pas de juif à Quimper, dont les parents étaient antiquaires à Quimper, et c'est un homme d'une immense sensibilité, d'une immense générosité, et il dit à Picasso, viens, mon lit est ton lit, tu dormiras dans ma chambre. Et en fait, Picasso dormait le jour, Max Jacob dormait la nuit,
c'était la vraie misère, quoi. Il y a un passage d'ailleurs qui est incroyable, c'est quand Picasso doit déménager, et vous racontez, il traverse tout Paris avec une charrette, racontez ça.
C'est quand il a réussi à obtenir un atelier au bateau Lavoir. On est en 1904, c'est le quatrième voyage, enfin. Et il y avait des meubles qu'il a achetés à Montparnasse. Et il fait venir un copain qui s'appelle Manolo. Et il monte avec la charrette à bois, la charrette à bras. Pardon ?
Et un jeune homme qui leur loue la charrette.
C'est ça. Et il monte tous les meubles de Montparnasse à Montmartre. Je ne sais pas si on imagine, c'est énorme. Enfin, c'est une traversée de Paris héroïque, enfin, épuisante.
Ouais.
Et alors le bateau Lavoir, dont on parle comme...
Alors, attendez, juste, ce qui m'a touché, évidemment, c'est ce côté un peu pathétique, c'est que arriver avec ce garçon qui les a aidés, qui leur a loué la charrette, ils ne peuvent rien lui donner.
Oui. Picasso n'avait pas un sou pour le remercier, pour lui.
Il dit, si je te donne
j'ai plus quoi. Il y a une grande, grande misère, et je dirais plus que ça, Jean. Il y a une immense pudeur sur cette misère. Et c'est ça qui m'a ébloui en travaillant sur Picasso. Jamais un mot de plainte. Jamais un dévoilement de cette fragilité. Jamais. Et ça, c'est bouleversant.
Ouais.
Par contre, quand on regarde la correspondance, ça vous aveugle, c'est évident.
Il y a une chose extraordinaire quand même, parce que il n'y a aucune, comment dirais-je,
aucun apitoiement
sur lui-même de Picasso.
Aucun apitoiement.
Par contre, il y a une anecdote dans le livre qui est bouleversante pour moi. C'est alors qu'il est richissime au sommet de la gloire, il y a chez lui une bouteille.
Ah oui, oui, la bouteille à Fred. On est beaucoup plus tard. À ce moment-là, il a trois énormes propriétés. Il a le château dans Provence, etc. Et un jour, c'est un copain à lui qui voit cette bouteille, une bouteille très poussiéreuse dans un coin. Il lui dit, mais je t'ai jamais demandé pourquoi cette bouteille est là. Et Picasso lui dit, tu sais, c'est une histoire que j'ai jamais racontée à personne, mais elle m'a suivi d'atelier en atelier et de maison en maison.
Depuis quand?
Et depuis 1907. Donc c'était au moment du château de Vauvenargues, vous voyez, qui était un des plus anciens châteaux de France. Et alors, Picasso dit, tu sais, c'était un hiver où la Seine charriait des glaçons. Et j'étais en train de faire mes œuvres cubistes. Et mon plus grand collectionneur était Léo Stein, l'expatrié américain. Et il vient me voir, il me dit, mais j'aime pas ce que tu fais, j'aime pas ce que vous faites. Et Picasso lui dit, c'est ça que je veux faire. Et j'ai rien en ce moment. Et Léo Stein lui envoie une pièce de 2 francs.
Ouais.
Picasso a expliqué que c'était extrêmement humiliant, il avait envie de lui renvoyer la figure, et puis il a continué à travailler, il n'y avait pas de charbon dans son poêle. Puis tout d'un coup arrive Frédé, qui est le patron d'une boîte, d'un cabaret à Montmartre qui s'appelle Le Zut. C'est un homme qui était chaleureux, qui avait des ânes,
d'où
qui avait des cornets.
L'expression des zutistes, qui sont absolument. les prédadaïstes.
Exactement, exactement, c'est ce monde-là. Et Frédé arrive avec son char à bois, et lui dit, voilà, je t'ai apporté quelque chose. Qu'est-ce que je t'ai apporté? Je t'ai apporté du charbon pour ton poêle, je t'ai apporté des toiles, et je t'ai apporté une bouteille d'absinthe. Et Picasso dit, eh bien ce jour-là, j'ai gardé la bouteille d'absinthe comme un talisman. Je ne l'ai pas ouverte, mais j'ai chauffé ma chambre, mon atelier, j'ai travaillé. Et c'est une bouteille qui me rappelle les années de misère. Mais je n'en ai jamais parlé à personne. Donc c'est quand même bouleversant de se dire que cet homme qui a acquis cette stature aujourd'hui en France, qui écrase tout le monde, qui écrase le XXe siècle, sur lequel on a écrit plus d'ouvrages que n'importe qui, puisque Alfred Barre disait qu'en 1939, personne n'avait écrit sur un artiste plus que sur Picasso dans tous les temps. Cet homme-là a traversé 40 années en France, précaire, invisible et avec
la
peur au ventre.
Et la peur au ventre, parce que la peur au ventre va continuer. Picasso va, par exemple, toujours ami avec les émigrés. Mmh. Je pense à Apollinaire, qui est un émigré.
Mais bien sûr, c'est un apatride.
Un apatride, hein, il est extraordinaire.
Il est de père polonais, il a une mère qui était plus ou moins une femme de cour au Vatican. Il a bourlingué dans toute l'Europe. Il est sans nationalité. Il est un peu en avance sur Picasso et il va l'entraîner. Il a une énergie créatrice que Picasso n'a pas encore. Picasso est un peu emprunté au début. Apollinaire a un rôle capital pour Picasso. Il lui ouvre Paris. Il lui ouvre Paris et c'est là qu'ensemble, ils vont se rapprocher de ce monde des forains, des saltimbanques en 1905, qui sera une année entière de production de Picasso et consacrée aux forains et aux saltimbanques, aux assez marginaux, dont Flaubert disait à George Sand, j'ai vu l'autre fois un campement de bohémiens qui sont aussi inoffensifs que des moutons, mais dont les gens d'ordre ont peur.
Mais c'est ça.
Et cette peur est...
Voilà. C'est la sienne. Cette peur, c'est la sienne, au
exactement,
fond. Hein, exactement. C'est ça. Enfin, je vous renvoie à l'exposition extraordinaire Picasso Rose et Bleu, qui était une des...
Qui était une merveille,
splendeur.
Avec 300 œuvres rassemblées du monde entier, ouais, et qu'on ne reverra jamais plus.
Ouais.
Vous vous souvenez des pierreuses qui venaient d'Hiroshima, du musée d'Hiroshima, des grandes merveilles. Et si vous voulez, c'est en voyant cette exposition, dans laquelle Laurent Lebon avait eu la bonne idée de dire au président Macron, mais faites venir les chefs d'État pour le 100e anniversaire de 1918, faites venir les chefs d'État à l'exposition au musée d'Orsay au lieu de les envoyer.
Et 21 chefs d'État sont venus.
Ils sont venus, 60 chefs d'État, y compris le président américain qui s'appelait Trump à l'époque. Et je me disais, mais cette rencontre entre ce jeune génie dans la position d'un émigré et un président Trump qui construit des murs à la frontière mexicaine, ça a quelque chose de monstrueux.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est là que je me suis dit, mais je découvrais ce que découvrait le visiteur lambda de l'exposition Bleu et Rose, mais je savais que derrière, il y avait quelque chose qu'il fallait dire. C'était au moment où je faisais mon exposition. Et je me suis dit que c'était important de le dire.
Alors, il y a un chapitre qui montre cette peur dont on parle, là. C'est le chapitre entre Apollinaire et son petit escroc qui essaye d'escroquer, et Apollinaire et Picasso. Raconter.
Le rêve de Picasso, donc Géry, il découvre...
Pierret,
oui. Il était belge. Picasso découvre l'art ibérique au Louvre. Il allait toujours au Louvre. Et il découvre les ancêtres de l'art espagnol, des têtes extrêmement intéressantes. C'est l'époque où il s'intéresse au primitivisme. Et je sais que vous avez invité Philippe Dagen là-dessus récemment. Et donc, Picasso rêve de tenir dans ses mains une de ses statues. Et en fait, Apollinaire lui dit, tiens, j'ai un secrétaire qui peut t'en vendre. Alors, Picasso en achète une et il travaille à partir de ça sur les Demoiselles d'Avignon. Mais on apprend beaucoup plus tard, 5 ans plus tard, en 1911, au moment du vol de la Joconde, que ces statuettes avaient été volées au Louvre par cet homme-là. Alors, Picasso et Apollinaire n'y étaient pour rien, ils ne savaient pas. Et donc, Apollinaire appelle Picasso en urgence en lui disant, il faut que tu rentres de Céret, d'où il était, en urgence, et tous les deux marchent le long de la Seine, affolés, pendant une nuit, ils se demandent quoi faire. Ils savent qu'ils peuvent être expulsés de France, tous les deux.
Oui, c'est le risque est énorme. Oui.
Le risque est énorme. Et donc là, ils vont prendre conscience, il y a des moments où Picasso va prendre conscience qu'il peut tomber dans un précipice. Ça sera une des raisons pour laquelle Apollinaire sera volontaire à la guerre de 14 pour devenir français. Ce que fera pas Picasso. Mais Apollinaire va passer une semaine au poste de police. Picasso est aussi écouté, mais j'ai pas trouvé du tout le rapport dans son dossier de police.
Oui, visiblement, c'est passé. Alors, il y a des personnages qui apparaissent peu à peu, qui curieusement sont eux aussi, comme les Apollinaire, comme les Picasso, etc., viennent d'ailleurs, si je puis dire, hein, comme si c'était toujours les gens d'ailleurs qui venaient faire le... Hein, je pense à deux personnages essentiels, Vincent Cramart et Karl Einstein. Alors ces deux regardeurs et deux historiens de l'art incroyables.
Ces deux personnages extrêmement formés et dont le regard est formé par l'histoire de l'art allemande. Et l'histoire de l'art allemand n'a rien à voir avec l'histoire de l'art français. On est dans une période très particulière, c'est la période 1870-1914, la période de la naissance du cubisme, pendant laquelle la France a gagné la guerre contre l'Allemagne, l'Allemagne est honteuse, et la France se sent supérieure. Or, il se trouve que les historiens d'art allemand...
Wolflin, par exemple,
bien sûr. Extrêmement forts. Ce sont des gens qui travaillent comme des anthropologues, comme des linguistes. Ce sont des gens qui voyagent, ce sont des gens qui parlent les langues, ce sont des gens qui comparent. Et par opposition à ça, on a l'histoire de l'art française qui est figée sur le bon goût français. Oui. Le bon goût de l'Académie des Beaux-Arts, le bon goût de notre cher roi Louis XIV, de manière très suffisante. On voit quand Picasso arrive à l'exposition universelle de 1900, le président Émile Loubet qui fait un immense discours sur le génie français qu'il est fier de présenter au monde. Mais ce jeune Picasso, lui, il a dans ses bagages Velázquez et Goya, je veux dire, c'est quoi ce discours sur le génie français? C'est un peu ridicule, en fait. Alors Cramart, pour revenir à lui, c'est un jeune tchèque de Prague qui fait sa thèse à Vienne en 1900 et qui a une sur l'art gothique français, mais qui va découvrir le cubisme à Paris et devenir un collectionneur, mais fou.
Vous êtes rentré dans les carnets de Cramart. Oui. Et là, vous étiez quasiment dans ses yeux. Enfin, c'est assez extraordinaire ce moment-là où vous êtes dans les yeux de Cramart et vous voyez ce qu'il voit et vous comprenez ce qu'il comprend alors que personne ne le comprend à l'époque.
C'est exactement ça. Par exemple, en 1913, il y a une exposition à Munich, à la galerie Tannhauser, qui est la première exposition, une rétrospective de Picasso. Et Cramart prend dans ses carnets, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans les archives du Metropolitan Museum, et il décrit chaque œuvre qu'il voit et les œuvres cubistes qui font horreur aux Français, où il y a un nez en quart de brie, un œil violet, un autre œil vert, un autre œil bleu. Et il dit, mais œuvre sublime. Donc il est capable, avec sa formation, parce que ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les généalogies dans l'histoire de l'art, avec sa formation, de décoder l'originalité, l'intérêt.
Qu'est-ce qu'il dit, par exemple?
Alors, il explique, il écrit à son frère, il dit « Ces derniers jours, j'ai passé tout mon temps chez les marchands de tableaux et tout ce que j'y ai vu de l'art moderne, je n'en avais jamais rêvé. La journée d'hier a été une des plus fortes. Après, je n'ai même plus plus pu dormir.
C'est, j'adore, parce que on se rend compte qu'il arrive dans le laboratoire mondial de l'art à ce moment-là.
C'est exactement ça, et c'est ce que représentait Paris pour tout le monde. Et à ce moment-là, il va aller donc chez le marchand de Picasso qui est Canveller, et il va avoir le droit de... Alors d'abord, il va avoir le droit de pénétrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire l'atelier de Picasso.
Oui.
Et ça, c'est une rencontre phénoménale.
Il veut même s'installer à Paris définitivement. Voilà. Il écrit à sa femme. On s'y installe, il faut suivre Picasso, etc.
Oui.
Et d'ailleurs, vous parlez de Canveller. Donc là encore, un Allemand, ça sera d'ailleurs un problème, on va en reparler. Qui c'est ce Canveller?
C'est un fils de famille juive allemande, fils de banquier, petit-fils de banquier, petit-neveu de banquier, très bien éduqué, qui rêvait d'être chef d'orchestre, qui connaissait tout, de la littérature, de l'art, de la musique.
Culture fabuleuse.
Il arrive à 22 ans à Paris. Son grand-oncle
lui prête 20 000
prête de l'argent.
Francs,
Il prend une minuscule galerie.
4 mètres sur 4, vous m'avez dit, rue Vignon.
On va reconstituer cette galerie, grandeur nature, dans l'exposition du musée de l'université.
La plus grande galerie en France, la plus spectaculaire, la plus forte, faisait 16 mètres carrés. C'est fou, hein?
Et il a exporté les œuvres cubistes dans tout l'Empire austro-hongrois, tout l'Empire allemand et tout l'Empire russe pendant les années 1907-1914, ce qui est exceptionnel.
Alors, et qu'est-ce qu'il dit, quoi? Pas de vernissage?
Enfin, il disait, je savais rien, je savais pas comment on faisait un vernissage, je savais pas, je connaissais personne, j'avais un idiot qui mettait de la toile de
gîte. Il avait pris avec lui un simple d'esprit pour l'aider à...
Voilà, c'est ça. Donc il raconte ça. Et si vous voulez, ce qui est aussi extraordinaire chez Canveller, c'est que chez les Juifs allemands, il se trouve que je connais bien cette histoire des Juifs allemands, ils se considéraient comme sur un strapontin en Allemagne. Et les Juifs allemands avaient la plupart du temps, surtout dans les familles fortunées, des babysitters pour leurs enfants qui parlaient français. Donc pour Canveller, la France, c'était le paradis. La France, c'était la langue, la culture et le paradis. Donc on a Canveller qui se voit en chef d'orchestre, donc en passeur, et qui va découvrir, décoder ce que fait Picasso en allant au bateau lavoir et en étant un des premiers qui accepte les Demoiselles d'Avignon sans dire que c'est de l'étoupe ou une horreur ou quelque chose de scandaleux. C'est extrêmement intéressant. C'est un regard venu d'ailleurs.
Ouais. Ça m'intéresse parce que je ne comprends pas comment ce personnage, qui n'a pas de réseau dans le monde de l'art, arrive à se mettre en connexion avec toutes les galeries européennes. Enfin, c'est fou. Enfin, et qu'est-ce qu'il dit quand il va dans l'atelier Picasso? Parce que je crois me souvenir qu'il l'a trouvé épouvantablement...
Il dit c'est une pouillerie.
Une pouillerie.
Il dit personne ne pourra jamais se faire une idée de la pauvreté, de la misère lamentable de cet atelier. Le papier de tenture pendait en lambeaux des murs en planches. Il y avait de la poussière sur les dessins, les toiles roulées sur le divan défoncé. À côté du poêle, une sorte de montagne de lave agglomérée qui était les cendres. C'était épouvantable, une pouillerie.
Ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte que quand on va chez Picasso, on va chez quelqu'un, peu importe qu'il soit dans la misère, là, mais qui travaille. Et j'ai la sensation, quand on lit tout le début de la période de Picasso, et je crois que ça n'a pas arrêté jusqu'à la fin de sa vie, qu'il échappe à tous les drames de sa vie personnelle, politique, etc., par le travail.
C'est tout à fait juste, c'est tout à fait juste. Juste un point avant de passer au travail, la méthode Canveller.
Oui.
J'ai pas répondu à ça, parce que Canveller avait une manière de procéder qui était entièrement différente de Vollard, par exemple. Vollard était un peu bordélique.
D'ailleurs, pardon, je vous interromps, mais Vollard, donc ce grand marchand qui lui aussi avait un placard avec un cagibi secret dans lequel il y avait
des Gauguin,
Van Gogh, etc. Enfin, c'est Vollard qui a amené Picasso, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, Vollard a amené Picasso chez Canveller.
Alors, je vous explique. En fait, Picasso savait tout ce qui se passait. Picasso a une intelligence exceptionnel. C'est ça que le livre m'a permis de montrer et m'a permis de découvrir. Et donc Picasso avait entendu parler par ses copains de ce nouveau galeriste qui venait d'ouvrir à Paris. Donc il a voulu lui-même aller voir. Alors une galerie de 16 mètres carrés, c'est difficile de passer inaperçu. Il vient d'abord amené par Vollard, sans se présenter, et il va une deuxième fois tout seul, sans se présenter à nouveau. Et cet ami commun, c'était Wilhelm Uhde. Et après, Uhde, c'est lui qui amène Canveller chez Picasso. Et Canveller reconnaît ce jeune homme qui est venu dans sa galerie en sauvage. Mais c'est rarissime que ce soit l'artiste qui repère le galeriste.
Eh oui.
Et donc, cela se passera une deuxième fois au moment du contrat que Canveller signera avec Picasso en décembre 1912. C'est la seule et unique fois que c'est l'artiste qui rédige le contrat. C'est pas le marchand qui rédige le contrat, c'est l'artiste qui impose son... Et c'est l'artiste qui choisit Canveller. Picasso va tester Canveller. Il va le tester longuement, pendant 4 ans. Pendant l'été 1912, il est complètement dépendant de Canveller parce qu'il a un problème de femme, etc. Et il envoie des lettres affolées que je cite en 1912 en lui disant « Voilà, il faut m'envoyer telle toile et telle couleur et telle... Et occupez-vous de mon chien. » Enfin bon. Et pendant cet été-là, il teste Canveller et après, il accepte. C'est avec Canveller qui signera.
Alors Dieu sait que c'est une réussite, mais autour de cela, il y a des personnalités assez extraordinaires qui tournent autour de Canveller et qui, à travers Canveller et Picasso, rencontrent Picasso, etc. Alors il y en a beaucoup. On pourrait parler des Stein, Gertrude Stein et oui. Léo Stein. J'allais dire couple, c'est pas le mot est pas juste, mais enfin quelle fraternité, sororité.
Oui. Un frère et une sœur. Enfin ils sont 4. Hein. Il y a aussi l'autre frère. Et ce sont des grands bourgeois juifs allemands, toujours originaires de du même territoire que Canveller, c'est-à-dire de la Bavière, des juifs qui vivent dans des petites communes de Bavière. Et la famille des Stein avait fait fortune aux États-Unis. Les enfants font le tour du monde. Et viennent s'installer à Paris. C'était le seul lieu où il fallait être pour les Juifs allemands. Donc il s'installe à Paris rue de Fleurus. Et Léo Stein était un homme dont Alfred Barr disait que c'était l'homme le plus cultivé de son temps.
Oui.
C'était un homme qui faisait... Et qui surtout découvre Picasso au salon... Qui découvre Picasso dès 1905. Mais comme Picasso n'exposait pas dans les salons, il le découvre ailleurs. Et il dit que c'est un des meilleurs dessinateurs d'aujourd'hui, un jeune espagnol. Et donc, la chose... unique chez Léo Stein, c'est qu'il collectionnait à la fois Matisse et Picasso dès 1905. Il en était
Il faut fier. Dire que c'est aussi quelque chose qui passe en dessous de votre livre, comme ça on lit la découverte du nu bleu que Picasso fait. Enfin, à chaque fois, c'est entre deux, ces deux artistes qui se voyaient peu, se regardaient beaucoup.
Énormément, hein,
c'est incroyable.
Énormément.
Je pensais à ce que disait Max Weber, ce peintre américain, vous le citez, à propos de Léo Stein et du salon de Léo Stein et de Gertrude Stein. Il disait « Ce salon était une sorte de gigantesque bourse aux idées, destinée aux jeunes artistes du monde entier, où avaient lieu des débats intenses et approfondis sur les courants esthétiques conduits par le talent et l'érudition de Léo. On s'y sentait libre d'y lancer des idées qui faisaient figure de bombe dans le domaine de l'art, et beaucoup y firent là leur première découverte. » C'était déterminant, évidemment.
C'était les traditions américaines. Chez les Américains, on mêle les jeunes et les vieux, on mêle les gens célèbres et les gens qui ne le sont pas. Il y avait table ouverte le samedi soir. Et donc c'est là que les jeunes peintres américains qui venaient à Paris se former à l'école des Beaux-Arts ou dans les ateliers ont eu la chance de rencontrer Matisse et Picasso, par exemple.
Alors on va parler des Américains, mais quand même il y a quelqu'un qui est là, comme, je ne sais pas quoi, une épouse, je ne sais pas, Georges Braque. Georges Braque arrive dans la vie de Picasso et c'est quelque chose de très très important et vous le caractérisez.
Moi je crois que dans la... co-construction du cubisme entre Braque et Picasso, dont on a beaucoup parlé, puisqu'on a, il y avait la fameuse exposition de 1989 au MoMA de New York. Cet attelage Picasso-Braque est passionnant, parce que Braque est véritablement le seul premier ami tout à fait 100% français de Picasso. Et je crois que Picasso le repère pour ça.
C'est stratégique, c'est quasiment une vraie amitié, mais c'est une opportunité stratégique.
Totalement, parce que Braque est formé par une lignée d'artisans français, donc il connaissait très bien le travail technique avec les peignes, avec les papiers collés. C'est lui qui va fourbir les outils pour les papiers collés, la période des papiers collés, qui est la période la plus révolutionnaire du cubisme en 1912, 1913, 1914. Et c'est grâce à Braque que Picasso peut y arriver. Mais tout ça, on le voit dans la correspondance entre Braque et Picasso. Les lettres que Braque écrit à Picasso, elles n'ont rien à voir avec les lettres d'Apollinaire ou les lettres de Max Jacob ou les lettres... Parce que Braque lui dit « Salut vieux frère, je te serre la louche, bonjour ». Enfin, c'est brutal. C'est brutal, c'est solide, c'est direct. Et en même temps, Il le fait pénétrer dans un monde que Picasso ne connaît pas. Braque et fait sa période de réserve dans l'armée. Bon, Picasso ne sait pas ce que c'est. Il va dans des villages paumés. Picasso, il l'emmène au Havre, par exemple. Et ensemble, ils vont utiliser le Ripollin, ils vont découvrir l'aviation, ils vont découvrir le cinéma. C'est une équipe formidable.
Et stratégiquement, on peut dire que Picasso a laissé Braque montrer le cubisme d'abord.
Oui, c'est tout à fait juste.
Hein,
tout
à fait juste. Il lui a permis d'exposer, au fond, les premiers résultats de leur
expérimentation,
de leur chimie,
oui,
hein,
c'est ça.
Ensemble. Hein.
Oui, tout à fait.
Et ça, c'était stratégique aussi. Il fallait que ce soit un Français qui montre le cubisme d'abord.
Tout à fait juste.
Et Dieu sait que après, bien des années plus tard, au moment de la disparition de Braque, par exemple, la France va essayer de récupérer Braque et de lui donner une importance, comme si ça légitimait le cubisme, au fond, non? Je pense.
Au discours de Malraux. Alors, Malraux fait un discours au moment de la mort de Braque. On est le 4 septembre 1963. Moi aussi, ça m'a choqué, Jean. C'est dans la cour du Louvre, devant Saint-Germain-l'Auxerrois, à minuit un soir. Et il dit, Braque, on lui avait donné à décorer.
Vous pouvez nous retrouver quelques lignes de ce discours. J'adorerais l'entendre parce que c'est le deuil national. C'est Braque est un héros national et célébré par la République.
Voilà, on lui avait demandé de faire la salle Henri II au Louvre. Oui. Entre parenthèses, Picasso n'a jamais eu de commande officielle de l'État français, jamais.
Un Apollinaire qui n'a pas marché.
Voilà, oui, mais voilà, c'est ça, mais oui. Alors voilà le discours de Malraux.
Quelques lignes.
Oui, aujourd'hui, Braque révèle avec une puissance contagieuse la liberté de la peinture, et Braque et ses amis de 1910 ressuscitaient alors pour nous tout le passé du monde.
Ça, c'est fou parce que vous dites les amis de Malraux, dit les amis de 1910, alors qu'il aurait pu dire Picasso.
Dans les amis de 1910, il y avait Picasso, oui. Ça, je trouve que c'est une...
Oui,
c'est...
Mais vous en faites une interprétation très politique. Selon vous, me semble-t-il, c'est la volonté de dire l'art français.
Oui, mais ça se termine, le discours de Malraux se termine par « Vous avez reconnu Madame, dit-il à Marcel Braque, la musique que vous venez d'entendre avant ces cloches qui sonnaient jadis pour les rois, c'est la marche funèbre pour la mort d'un héros. » Je veux dire, il y a quelque chose d'exacerbé. Il compare Braque à Victor Hugo. Enfin, c'est fou, quoi. Il y a quelque chose de profondément nationaliste.
Et de déséquilibré.
Ah ben, complètement.
Il faut dire que les combats nationalistes ne cesseront pas. Hein. Il y a énormément d'interventions qu'on lit dans votre livre, de réactions au cubisme comme un art Bosch. Hein, c'est un truc... C'est épouvantable, ce qu'on...
Alors ça, là, on se trouve en 1914, oui. Au moment où la France entre dans un moment d'hystérie germanophobe. Or, il se trouve que Canveller est allemand et, selon la loi, on doit séquestrer les fonds des marchands allemands ou...
Il y a un horrible personnage qui s'appelle Tollet, par exemple, qui m'avait beaucoup frappé dans votre livre. Je crois que c'est un
professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Lyon. Le 6 juillet 1915, il fait un discours pompeux sur l'influence de la corporation judéo-allemande des marchands de tableaux de Paris sur l'art français. Il y a des juifs marchands de tableaux qui, extortant des fortunes à leurs clients par des pratiques douteuses, sont dans leur rôle. Mais si par surcroît ils sont doublés de germains, on comprendra la lutte méthodique qu'ils ont entreprise contre la culture française, l'influence qu'ils ont essayé et souvent réussi à prendre sur le goût français.
C'est assez extraordinaire et ça n'arrête pas parce que cette opposition, il y a 1000 exemples, dont des grands artistes comme Vlaminck qui aussi ça attaque, n'est-ce pas?
Vlaminck qui avait été un copain de Picasso au bateau Lavoir,
qui était un des introducteurs de l'art africain, qui est un des fauves, etc. Et qui, je ne sais pas s'il était rongé par l'alcool, mais enfin en tout cas, il devient un affreux réac épouvantable.
Il va sortir des choses.
Il devient surtout un mauvais peintre, hein, sincèrement.
Enfin, voilà, donc il va dire en 1924, Picasso c'est le truqueur par excellence, le plagiaire né. S'il était en Espagne et qu'il eût continué à envoyer de temps en temps une toile cubiste à Paris, on dirait « c'est merveilleux, quel génie », mais il a pensé « la France est victorieuse, faisons de l'ingre », c'est pourquoi on ne le prend plus au sérieux.
Ouais.
Voilà, donc...
Alors, ce qui se passe aussi, alors, pendant ce temps-là, il y a plein d'autres choses. Je pense par exemple au succès américain, qui était quelques années avant la guerre, chez Stieglitz, quand même vers 1908, je crois, à la galerie américaine, sous l'influence de on en avait déjà parlé sur ce plateau avec Marius Desaillas. Il est emmené. Alors je vais vous lire ce que dit Marius Desaillas et puis ensuite je voudrais qu'on évoque les autres questions, c'est-à-dire le changement de galerie, la séquestre de Canveller, etc. Marius Desaillas, donc qui est un ami de Stieglitz, qui vient à Paris, découvre grâce à Aviland Picasso. Il dit tout le monde me parle de Picasso, on me dit que c'est Picasso que je dois aller, etc. Et puis il écrit: c'est un homme qui sait ce qu'il veut et qui veut ce qu'il sait, qui a transgressé tous les préjugés d'école, qui a déjà consolidé pour lui-même un large territoire et a déjà acquis cette notoriété qui est le premier pas vers la gloire. De même que l'art égyptien a transgressé les préjugés de l'art gréco-romain, de même l'art de Picasso offre une représentation esthétique d'une psychologie de la forme, proposant en essence ce qui semble n'exister qu'en substance. Et ça donnera ce triomphe, au fond, de Picasso aux États-Unis, qui va commencer à ce moment-là.
En 1911. Il faut voir que la première exposition de Picasso dans la galerie de Stieglitz est en 1911.
Galerie 291.
291, c'est très très tôt. Ouais. Et Stieglitz voit ce nu descendant l'escalier de Picasso, un nu cubiste, et il dit: c'est aussi beau qu'une fugue de Bach.
Ouais.
Et Stieglitz est aussi lui-même un artiste, c'est un
immense photographe. Ouais, oui.
Et il fait entrer dans sa toute petite galerie sur la 5e avenue des choses très originales, les dessins érotiques de
Rodin.
Rodin, par exemple.
Il y a Steichen qui est derrière tout ça, hein, le grand photographe Steichen, ami de Rodin.
Bien sûr, qui vient à Paris parce qu'il voit les problèmes que Rodin avait.
Qu'est-ce qui va se passer pendant la guerre? Canveller, allemand, qu'est-ce qui se passe avec les trésors de Picasso?
Alors, l'horreur, c'est que au moment en 14, la France décrète un séquestre sur les marchands étrangers. Et alors là, on voit les gens qui étaient jaloux de Canveller, qui commencent à l'attaquer, mais plus que l'attaquer, à le cerner. C'est une chasse aux boches considérable. Je lis ce que... Alors, Léonce Rosimbert, c'est le frère de Paul Rosimbert, et c'est un collectionneur de Picasso. C'est un client de Canveller. Canveller a emmené un de ses clients chez Picasso, donc Léonce Rosimbert a été dans l'atelier de Picasso. À peine, Canveller est-il mis sous séquestre, et d'ailleurs...
Et donc les Picasso mis sous séquestre, donc
absolument,
pour lui,
tout, il perd 700 œuvres, c'est colossal. C'est une véritable amputation pour Picasso. Et en fait, il est victime collatérale de la germanophobie française, Picasso.
C'est ça.
Donc, que fait Léonce Rosimbert? Il va attaquer publiquement Canveller auprès du juge qui s'occupe des séquestres, et il va lui dire... Un marchand boche, fi, quelle horreur! Vous n'ignorez pas que seul l'art français ou venant de la France se vend à l'étranger. Je ne vois pas très bien du Picasso édité à Berlin ou à Francfort. Les Picasso nous arriveraient avec une vague odeur de choucroute. Voilà. Et il écrit aussi à... Et
il c'est écrit, dégueulasse, hein, sincèrement.
Il écrit à l'inspecteur. Mais c'est quand j'ai découvert ça. Alors, il écrit... Léonce Rosimbert écrit à l'inspecteur. Donc... Canveller provoque des jalousies parce qu'il est supérieur à tous, il est excellent. Il a vendu Picasso, il l'a rendu riche, il a inventé des collections partout. Et voilà ce que Rosimbert écrit contre Canveller. Monsieur l'inspecteur, je crois utile de vous mettre au courant des nouveaux agissements du sieur K, qui, comme ses six sympathiques compatriotes, ne s'estimant pas battu, s'indigne avec une outrecuidance sans égale de savoir que l'État français ose décider la vente de son stock et se prépare à tout entreprendre pour en entraver la réalisation. Ne croyez-vous pas comme moi qu'il est inadmissible qu'un sujet d'une puissance ennemie, dont les biens sont sous séquestre, puisse revenir, aussitôt après les hostilités, s'établir en France sous un nom de complaisance, etc. etc.
C'est extraordinaire. Cette histoire est incroyable. Et donc, mais néanmoins, cette pression marche et Picasso arrive chez Rosimbert. Donc ça va être quelque
il
chose...
Il est entre les deux frères. Il montre ses œuvres cubistes chez Léonce Rosimbert et ses œuvres plus classiques, disons, chez Paul Rosimbert.
Et donc il va se passer beaucoup de choses, la guerre va se passer. Qu'est-ce qui va se passer pendant la guerre? Il va y avoir surtout après la guerre une transformation esthétique de Picasso qui va détourner tout le monde.
Oui. Alors, les gens ne comprennent pas pourquoi Picasso va modifier donc son esthétique. Les gens sont perdus. Et on voit, moi, ce que je pense, c'est que toute la période de l'entre-deux-guerres, où on a jamais compris pourquoi Picasso était cubiste, classique, surréaliste, recubiste, transformateur de forme, politique, etc. Moi, je crois que ce livre, ce travail, pousse à dire que quand on travaille dans l'histoire de l'art, on se doit d'analyser les conditions de travail de l'artiste. Et on se rend compte que Picasso avait subi une amputation par ce couperet du national au moment de la guerre de 14 et qu'il n'aura de cesse d'essayer de se protéger contre ce couperet du national pendant l'entre-deux-guerres qui était dans laquelle on a bien vu la montée du fascisme. Donc Picasso cherche des niches où il peut travailler et se protéger pendant cette période-là. Ces niches sont, 1, les ballets russes de Diaghilev, qui connaissait Picasso par les avant-gardes russes depuis Moscou, puisque Picasso était exposé à Moscou chez Tchoukine et Diaghilev avait vu ses œuvres. Il va travailler avec un homme formidable qui s'appelle Étienne de Beaumont.
Et quel beau personnage.
Vous aimez,
grand aristocrate.
Vous connaissiez?
Non, pas du tout, je l'ai découvert dans le livre.
C'est un merveilleux monsieur.
Il monte les soirées de Paris.
Voilà, qui fait jouer des artistes africains noirs, qui fait jouer du jazz dans son extraordinaire salon, qui va présenter Picasso à Proust, enfin bon, et qui va devenir le commanditaire de Picasso. Il va lui commander des œuvres pour son salon. Et Picasso devient costumier de théâtre, il devient décorateur. Et donc, pendant cette période, ce sont ces niches-là qui vont l'aider à fonctionner avant qu'il ne fasse un bout de chemin avec les jeunes surréalistes qui ont 20 ans de moins que lui et qui sont des fanatiques. Oui. Enfin, Breton, Éluard, Reverdy, Miro, Dali sont fous de Picasso. Et Picasso, pour lui, ce sont des jeunes, des très jeunes, mais il va faire un bout de chemin avec eux, avec ses tableaux extraordinaires qui seront décodés par Karl Einstein, justement, et par Michel Léris, magnifiquement. Donc, c'est pendant 1926-1940. Et alors, 1936, pardon. Et alors, après, on a une période, moi, qui m'intéresse aussi énormément, c'est la période pendant laquelle Picasso achète son manoir de Bois-Geloup, qui me semble être une autre forme de protection, une protection géographique contre les attaques. Il va s'organiser dans cet espace qui se trouve en Normandie, où il fait énormément de sculptures de grand format, il fait de la poésie, il reçoit ses amis, et puis arrive donc la guerre d'Espagne. Donc, je veux dire, pour moi, il est essentiel de considérer Picasso comme un tout, l'œuvre de Picasso comme un tout, et pas comme des morceaux. Parce que à ce moment-là, on voit ce que cet homme traversait et comment il a dû se construire des stratégies dans les interstices de la société française, entre les institutions. Et ça, c'est fascinant de comprendre son intelligence à l'œuvre, quoi. Il comprend que les fabriques administratives de l'altérité vont le bloquer. Donc, il va trouver des moyens de contourner les institutions. Il va le faire plus tard avec le Parti communiste, il va le faire plus tard avec l'État espagnol. Quand Franco demande le retour de Guernica en Espagne, en 1968, Guernica se trouve au MoMA à ce moment-là, Picasso dit à son avocat, Maître Roland Dumas, il est hors de question que Guernica rentre en Espagne tant que je suis vivant. Alors Roland Dumas lui dit...
Tant que Franco est vivant.
Tant que Franco est vivant. Et que moi je suis là. Et Roland Dumas lui dit c'est impossible. L'œuvre vous a été commandée par l'État espagnol républicain en 1936. L'œuvre appartient à l'État espagnol, qu'il soit républicain ou fasciste ou monarchique. Et Picasso lui dit démerdez-vous. Ce que Roland Dumas a raconté un jour où j'étais là, il dit je me suis démerdé. Il a temporisé, il a fait traîner et il s'est débrouillé. Donc Picasso avait cette incroyable intelligence de forcer sa volonté. Comme vous disiez tout à l'heure, il travaillait tout le temps. Son travail, c'était la valeur suprême. Ça passait avant tout. Et donc, il a exigé que sa volonté soit respectée. Et il a réussi.
Alors c'est une histoire extraordinaire, une histoire qui continue, on vous la racontera, on trouvera l'occasion de vous la raconter. En 1940, évidemment, il demande la nationalité française, et alors voilà la réponse de l'administration, si je puis dire. Monsieur Picasso, dont les idées paraissent acquises aux doctrines extrémistes, fournissait des subsides au gouvernement républicain espagnol pendant la guerre civile et fut nommé conservateur des musées. Effectivement, il est devenu le directeur du Prado. Toutefois, cet étranger, dit le préfet de police, ne fait au privé l'objet d'aucune remarque défavorable. Je vous laisse le soin d'apprécier s'il ne conviendrait pas de sursoir à l'examen de sa demande de naturalisation. Et dans ce dossier du 7 mai 40, avis défavorable, Picasso ne sera pas français. Et cette affaire continuera, il y aura le FBI qui s'inquiétera de lui, enfin ça n'arrête pas. Alors, on verra. Alors quel est l'état d'esprit de Picasso quand il reçoit une chose pareille?
Mais alors, c'est très difficile de le savoir, Jean, parce qu'en fait, cette demande de naturalisation, elle était entièrement secrète. Deux personnes la connaissaient, Marie Cutoli et son mari, qui était le sénateur Paul Cutoli, et Henri Laugier, son amant, qui était un homme très puissant dans l'establishment français. Donc, on ne sait pas, mais ce qu'on s'imagine, c'est que Picasso en a été meurtri. Il était considéré comme un artiste par les nazis.
Hein, artiste dégénéré par les nazis.
Après l'exposition de Munich en 1937. Il était considéré comme espagnol étranger par les Français, et il était considéré comme républicain par les Espagnols qui étaient maintenant Franco était au pouvoir. Donc les trois, et on voit que la puissance du fascisme montait, qu'on a oublié que les Européens s'imaginaient que c'est l'Espagne qui bouterait les fascistes hors d'Europe. On a oublié ça. Et que le fascisme montant en Italie, le fascisme montant en Allemagne, le fascisme montant en France, on s'imaginait que c'était l'Espagne qui sauverait. Et l'Espagne, Franco a réussi à faire son coup d'État. Donc là, Picasso se trouve avec une place prépondérante, avec son Guernica, qui devient l'étendard de la résistance à tous les fascismes.
Picasso. Alors ça, c'est le grand Picasso résistant, si je puis dire. Alors ce que j'aimerais bien, c'est que nous reprenions cette aventure et que la semaine prochaine, par exemple, on puisse se dire qu'est-ce qui s'est passé à partir de Guernica, qu'est-ce que c'est que la guerre de 40, qu'est-ce que c'est que l'Amérique, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la mort de Picasso, parce que il y a encore de nombreuses aventures, on en a vu que la moitié, il faut continuer. Merci beaucoup à Nicole Ensolal, à la semaine prochaine.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'Art et la Matière, une émission en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Annie Cohen-Solal pour son livre Un étranger nommé Picasso chez Fayard. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous continuerons la semaine prochaine sur ce même sujet parce que nous n'avons vu que la moitié du livre et c'est trop passionnant pour s'arrêter. Ainsi, vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Une émission qui est conçue en collaboration avec Seam Boutata. Prise de son, Jean-Guilain Meige. Réalisation, le retour de Franck Lilin. Merci Franck. Mais dans quelques instants, Jukebox par Amaury Chardot. Bon après-midi sur France Culture.